Prêts, les enfants ?
Oui, capitaine !
J'ai pas entendu !
Oui, capitaine !
Oh !
Bonsoir à toutes et à tous, salut tout le monde, première aléa du direct, quand on anime, il faut savoir allumer son micro, vous êtes sur Radio Pirate, et oui, la radio qui pirate ton confinement tous les soirs à 21h, c'est très très pirate, hein. On le sent dans la technique et l'usage, vous venez d'écouter And Some People de Chill Hope. L'émission de ce soir sera consacrée aux solidarités dans cette période trop souvent propice à l'isolement, où l'obligation à rester chez soi ne peut être bravée qu'à certaines conditions, les inégalités, elles se rendent davantage visibles. En effet, entre celles et ceux qui travaillent dehors ou en télétravail, entre les confinés à la campagne et les confinés en milieu urbain, entre les confinés en banlieue ou dans les centres-villes, les écarts se creusent et la misère peut parfois se faire sentir davantage. Heureusement, de bien courageuses et courageux pirates s'activent au service du collectif pour créer du lien, de la solidarité et ainsi rendre cette situation d'isolement plus supportable. C'est de celles et ceux-là, de leurs initiatives, dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour ça, bien sûr, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de deux autres pirates. Donc en premier lieu, Adrien. Bonsoir Adrien.
Salut les pirates.
Et évidemment, il y a aussi Agathe qui est avec nous. Bonsoir Agathe.
Salut tout le monde.
Du coup, ce soir, dans Radio Pirate, dans un premier temps, nous prendrons la direction d'Angers. Rendez-vous au tiers-lieu de la Grande Ourse, un lieu d'hébergement et de solidarité qui accueille plusieurs dizaines de personnes. Ce lieu est aujourd'hui menacé d'expulsion. Nous accueillerons également Chloé Madesta. Ce militant recueille depuis le début de la période pandémique toutes les initiatives de solidarité actives en France. C'est donc un programme chargé qui nous attend ce soir. Mais pour commencer en douceur, vous inquiétez pas, on a prévu une petite musique à vous faire écouter. Il s'agit de Ever 2005 de Wave Formation. Installez-vous confortablement, prenez une tisane, un verre d'eau, montez un petit peu le son de vos écouteurs. On se retrouve juste après. We'll be right back. retour sur Radio Pirate. Alors peut-être que pour commencer, on peut peut-être faire un état des lieux rapide, citer brièvement une actu, un chiffre, une initiative qui nous a marqué sur le thème des solidarités. Est-ce que par exemple, tiens Agathe, est-ce que tu as un chiffre, une actu dont tu aimerais nous faire part?
Oui, merci. Alors, ce sera un chiffre de mon côté, contient du secours populaire. Ce chiffre, donc, c'est 1 270 000. C'est le nombre de personnes qui ont sollicité l'aide de l'association pendant les 2 premiers mois du premier confinement. Alors, par comparaison, pour l'année 2019 en entière, c'était 3,3 millions de personnes. Le Secours Pop a publié ce chiffre à l'occasion du reconfinement, en lançant un appel aux dons, qu'ils soient financiers ou physiques. Et pour l'association, c'est très clair, elle l'écrit noir sur blanc. La crise sanitaire a pour conséquence une montée de la pauvreté et de la précarité, qui concerne notamment, elle cite, les familles monoparentales, les personnes âgées, les étudiantes et les étudiants, mais aussi les intérimaires, les travailleuses et les travailleurs indépendants, les aides à domicile et les artisans qui ont basculé dans la précarité. Donc pour le Secours populaire, c'est très simple. L'année 2020, elle est, je cite, une année noire sur le front social. Voilà, c'était pour mon petit chiffre.
Merci Agathe. Alors du coup, on voit bien un constat, on ressent bien un constat alarmant. On voit que cette période a plongé beaucoup de gens dans la précarité. Ça se voit notamment sur la question du logement, n'est-ce pas Adrien?
Oui, en effet, ce soir, moi, j'ai choisi un chiffre et ça sera celui qui est avancé par la Fondation Abbé Pierre, qui recense plusieurs centaines d'expulsions locatives à l'approche de la trêve hivernale devant débuter le 31 octobre. Certains préfets semblent avoir mis les bouchées doubles cet automne sans respecter les consignes pourtant transmises par les circulaires gouvernementales, laissant ainsi plusieurs centaines de familles sans solution de logement stable, alors même que le couvre-feu était déjà annoncé dans plusieurs régions françaises. Mais les préfectures, comme nous pouvions nous en douter, ne sont pas les seuls responsables, car on apprend aujourd'hui dans Ouest-France qu'à Angers, le gouvernement aussi ne tient pas ses promesses. En effet, Madame Vidal, de passage dans l'Ouest à la mi-octobre, promettait que les étudiants hébergés dans un camping, faute de mieux, se verraient assurés de rester hébergés là-bas au-delà du 1er novembre, la date de fermeture initiale du camping. Malheureusement, les nouvelles mesures sanitaires ont doublé le nombre de logements nécessaires, et l'Université d'Angers, l'une des plus sous-dotées de France, se retrouve dans l'impossibilité de faire face à ce coût supplémentaire. Madame Vidal aurait malheureusement oublié dans sa promesse de prendre en compte l'aspect financier. Les hébergements d'urgence du 115 étant déjà complets, ces étudiantes et ces étudiants sans logement seront sans logement à la mi-novembre. Situation locale, mais malheureusement sûrement très loin d'être unique.
Cette crise sanitaire, du coup, merci Adrien, cette crise sanitaire, du coup, est un facteur énorme de précarité, on l'a vu. Cette précarité s'exprime par le logement, par des tas de situations également. C'est une situation, comment dire, c'est une crise qui alerte sur les violences conjugales qui sont en augmentation pendant ces crises. On a aussi une petite capsule à vous diffuser sur cette question-là, tout simplement, si vous êtes victime ou si une de vos proches est victime de ces violences, avec quelques informations pardon, importantes à écouter.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclert met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.
Voilà quelques informations, quelques numéros importants à retenir pour combattre les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales qui sont malheureusement en forte augmentation pendant ce confinement. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces numéros, n'hésitez pas à nous les redemander sur le chat, par Twitter, etc. On vous les renverra. C'est des ressources importantes à avoir. Du coup, on retourne un petit peu À cette question des solidarités, tout à l'heure, Adrien nous parlait du logement et nous parlait notamment de Angers. Et donc, en parlant d'Angers, justement, allons-y et parlons un petit peu de ce qui se passe dans ce tiers-lieu qui est la Grande Ourse. On vous parlait, voilà, du coup, que, comment dire, on a reçu ce soir, pardon, du coup, Anatole, un membre actif à la Grande Ourse, qui est un squat autogéré à Angers. Et plus globalement, voilà, on a envie d'échanger avec lui, qui est là ce soir, pour nous parler un petit peu du fonctionnement de ce lieu-là. Donc, bonsoir, Anatole.
Salut, bonsoir les pirates.
Et du coup, voilà, Adrien, je te laisse le micro maintenant.
Ouais, salut Anatole. Du coup, on va s'entretenir un petit peu autour de la Grande Ourse pour commencer un petit peu, si tu peux te présenter aux pirates qui nous écoutent ce soir, voir un petit peu qui tu es.
Salut à tous. Alors, en vrai, je ne sais pas si c'est très intéressant de me présenter moi. Donc moi, je m'appelle Anatole, je suis un membre parmi d'autres membres de ce qui a été un collectif aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est une espèce de conglomérat de réseaux affinitaires qui bosse, qui s'active sur différents sujets. À titre perso, moi je suis qu'un parmi d'autres, on va dire. Et voilà, et du coup, d'ailleurs, je dis clairement, on utilise des blases parce qu'on ne veut vraiment pas individualiser ni personnaliser les luttes qu'on porte. On veut les porter, on veut s'activer, on veut essayer de faire en sorte de construire l'autonomie, de lutter pour la dignité, pour le logement, pour l'écologie, contre le fascisme, contre plein de choses en fait. Et du coup, je pense que c'est plus peut-être pertinent qu'on parle un peu de ce qu'on fait en groupe que je parle de moi. Voilà.
Bah, ça tombe bien, on allait partir là-dessus justement. Toi, tu es un membre de la Grande Ourse de la première heure, on va dire. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique rapide de la Grande Ourse qui s'est créée il y a maintenant plusieurs années à Angers?
Ouais, alors... Pour faire un historique exhaustif, c'est un peu complexe parce qu'il y a eu, des précédents. Il y a une longue tradition du squat sur Angers qui a plus de 11 ans. Il y a eu une expérience assez fondatrice sur cette question-là qui a été la réquisition à l'époque, donc il y a 11 ans, du 48 rue Lyonnaise, qui était un squat assez historique qui hébergeait plusieurs dizaines de personnes dans un premier squat grand format, qui mêlait des militants, militantes, des exilés, des SDF français et françaises, donc qui était une expérience assez fondatrice. Par la suite, il y a le collectif de soutien aux sans-papiers qui a mené une campagne de réquisition qui a duré plus d'une dizaine d'années. Et donc, un grand salut à LZE, notamment à Pierre-Jean, qui est un militant historique d'Angers, qui a vraiment bien bossé et qui aujourd'hui est décédé depuis un peu plus de 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Voilà, nous, en termes de collectif, on a émergé bien plus récemment, il y a environ 3 ans, et la Grande Ourse en tant que telle, à savoir le premier bâtiment qui s'est appelé la Grande Ourse, c'était le 3 septembre 2018. Voilà, c'était assez différent, je pense, de ce qui se faisait en matière de squat sur Angers jusque-là, puisque jusque-là, il y avait avant tout des squats qui œuvraient pour la question du logement, quoi, grosso modo, qui luttaient pour la question du logement. Donc, c'était des squats principalement habitatifs. Avec, on va dire, notre arrivée en tant qu'entité Grande Ourse, on a un peu ouvert les perspectives et on a un peu commencé à taffer de manière, on va dire, multitâche, à savoir qu'il y avait évidemment tout ce qui est le volet, comme vous l'appelez là, un peu solidarité. Après, nous, on aime bien parler à fond de lutte, hein. Même ce qu'on appelle solidarité, c'est des luttes pour le logement, c'est des luttes pour la dignité, de la lutte pour les papiers, des luttes pour l'alimentation. Donc il y avait évidemment tout ce volet-là, héberger, nourrir, etc. Ça, on pourra le détailler sûrement un peu plus. Mais il y avait également une vraie volonté de travailler à la vie politique de la ville, quoi, grosso modo. Enfin, on était plusieurs à faire le constat que Angers, c'était intéressant parce qu'il y avait des forces qui étaient là, mais pas mal en stase. Un lieu historique qui s'appelait l'Étincelle, qui était toujours là, mais un petit peu sur le reflux. Et en même temps, une espèce d'ambiance de plomb avec, une ville catho, bourgeoise, militaire, bien de droite, quoi. Oui, et puis assez années, peu. Ouais. Ouais, depuis longtemps. Et assez peu d'endroits de sociabilité, d'endroits de se retrouver, des collectifs qui existaient, mais un peu explosés les uns les autres, etc. Donc il y avait, à côté de cette lutte, on va dire, pour la dignité, pour le logement, pour l'alimentation, un peu une envie de politiser un petit peu tout ça, enfin de participer à la politisation de la ville, d'accompagner ces trajectoires d'émancipation, tout ça. Puis il y avait deux autres volets qui était d'un côté essayer de commencer à structurer une autonomie matérielle sur la question de l'agriculture, sur la question de l'artisanat, des savoir-faire, etc. Et de l'autre, pour créer la courroie de transmission au milieu de tout ça, et ben un peu cette idée de vouloir faire un lieu à la fois politique, à la fois pour le logement, pour l'hébergement, à la fois pour les luttes, mais aussi un lieu culturel. On pouvait se retrouver pour des concerts, pour des projections, des débats, etc. Et donc, c'était très épisodique sur le premier bâtiment, donc parce qu'on a eu deux gros bâtiments appelés la Grande Ourse. Hein. Et du coup, sur le deuxième gros bâtiment, donc le bâtiment actuel, il y a carrément un bar associatif du coup, qui est né à l'intérieur du bâtiment. Voilà, en gros. Pour la faire aussi rapidement, on a eu deux gros bâtiments. Donc, la première Grande Ourse qui a duré donc, du 3 septembre 2018 au 31 juillet 2019. Et le deuxième gros bâtiment, donc là beaucoup plus gros et en plein centre-ville, qui fait 2500 m², qui a été réquisitionné du coup le 1er novembre 2019 et qui est toujours encore debout aujourd'hui. Voilà.
Ouais. On en parlera un petit peu plus tard. Ça n'a pas forcément fait plaisir à tout le monde dans la ville d'Angers et on aura l'occasion de revenir là-dessus. De revenir là-dessus à la fin. L'idée un petit peu de cette émission de ce soir, c'est de parler de solidarité au temps du confinement. Tu as pu bien balayer l'ensemble des activités de la Grande Ourse et de son réseau associatif. Mais on va se concentrer, si tu veux bien, un petit peu sur le premier confinement et notamment ce que vous aviez pu mettre en place. Alors, si vous avez adapté des choses au niveau logement, ça nous intéresserait de le savoir. Et aussi ce que vous avez pu mettre en place avec le RAR, qui est donc le ravitaillement alimentaire autonome et réseau d'entraide qui existe à Angers. C'est deux aspects qui sont intéressants. Si tu peux nous parler un petit peu de l'adaptation du coup du logement et de ce que vous avez mis en place avec le RAR pour s'adapter au premier confinement.
Bah, concernant le logement et l'hébergement, déjà, nous, on logeait, on hébergeait, on va dire, grosso modo, 35 personnes dans le bâtiment de la Grande Ourse au début du confinement. Il y avait également deux autres bâtiments, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il y avait un réseau un peu de squat habitatif. Donc, il y avait un premier bâtiment qui hébergeait principalement des hommes seuls. Ils étaient grosso modo une quinzaine, du coup, à l'époque. Et un deuxième bâtiment qui hébergeait principalement des familles. Il y avait à peu près 15 personnes également qui étaient hébergées là-bas. Donc, ça, c'était un peu la situation de départ. Au début du confinement, nous, on essaie de réguler d'une certaine manière pour permettre à ce que les gens qu'on héberge soient hébergés quand même de manière la plus digne possible. Donc, on essaie de réguler un minimum. Donc, on a un peu un système de liste d'attente. On fait en sorte que les gens se rencontrent. Et les portes ne sont pas totalement grandes ouvertes pour la bonne raison que les portes totalement grandes ouvertes, c'est très rapidement dégrader les conditions d'accueil pour les premières personnes qu'on héberge. Donc voilà, donc là on a un peu ouvert un peu massivement d'une part, et puis d'autre part il y a un bâtiment qui a été réquisitionné dès le début du premier confinement, donc qui s'appelait la pigeonnerie, qui a été expulsée depuis malheureusement, et qui a permis, parce que peu avant le confinement, alors il y a toute une problématique autour des mineurs non accompagnés étrangers à Angers, où on leur refuse quasiment systématiquement la reconnaissance de leur minorité. Et on leur fait, et du coup, ils n'ont pas de prise en charge. Donc, c'est des jeunes hein, qui ont parfois 14, 15 ans, etc. Et qui se retrouvent complètement à la rue avec aucun droit parce qu'ils sont reconnus ni mineurs ni majeurs. Et donc, pour cette population-là assez spécifique, il y a eu un premier bâtiment, enfin un bâtiment qui a été réquisitionné dès le début du confinement pour qu'ils puissent être confinés tout simplement et ne pas risquer le virus en plus de l'hyperprécarité. Donc ça, c'est sur le côté un peu logement-hébergement. Et à côté de ça, donc, comme tu en parlais, il y avait du coup le RAR, Ravitaillement Alimentaire Autonome Réseau d'Entraide. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a construit historiquement, dont l'objectif, c'est depuis la ville et depuis les squats, créer des horizons vers l'autonomie matérielle, vers l'agriculture, et dans un deuxième mouvement, faire un retour vers la ville en ravitaillant à la fois les luttes et les précaires en ville. Ça, c'est le projet historique du RAR. Et là, et du coup, il s'est révélé complètement efficace sur ce deuxième confinement, sur ce premier confinement en tous les cas, puisque très rapidement, sur les premières, deuxièmes semaines, toutes les grosses structures associatives qui auparavant tournaient beaucoup sont retrouvées complètement bloquées par le confinement, par l'âge de leurs militants, militantes, hein, parce que c'était des personnes particulièrement vulnérables. Donc beaucoup, pendant 2, 3, 4 semaines, ont complètement arrêté leur distribution, etc. Ce qui fait que nous, on a très rapidement eu l'occasion de développer un système de maraude, de développer le système de la fripisserie, qui est un espace où nous, on produit en autoproduction, mais également, on a tout un réseau de maraîchers, maraîchères solidaires sur tout le département qui nous amène en gros de la nourriture et que nous, on redistribue. Voilà. Et donc, on a fait ça. Et en fait, les premières maraudes qu'on a fait, on a quand même croisé des gens pendant 4-5 qui n'avaient pas bouffé depuis 4 ou 5 jours. Donc, c'était assez flippant la situation. Très rapidement, on a en gros essayé de faire en sorte de ne pas jouer la centralisation. Parce que politiquement, nous, la centralisation, la taille des grosses structures et tout ça, ça crée des problématiques de micro-politique des groupes. Ça crée des rapports de concentration de pouvoir, d'information. Plus la structure est lourde, plus il y a du pouvoir à l'intérieur. Donc, on a essayé de militer très, très vite sur une espèce de décentralisation tissu de solidarité. Très rapidement, tout le monde venait nous voir pour faire des maraudes avec nous ou pour nous ramener de la nourriture à nous que nous redistribuer. On leur a très vite essayé de leur dire que c'était beaucoup plus pertinent qu'à l'échelle de son immeuble, qu'à l'échelle de sa rue, qu'à l'échelle de son quartier, de son village, de son hameau. Il y a tout un tas de petits points de collecte qui soient générés et qui servent de points de collecte, mais aussi de redistribution locale, et que ça crée un espèce de maillage autogéré de points de collecte et de redistribution, et que si jamais il y avait des excédents, bien, qu'ils nous les amènent du coup à la Grande Ourse, soit pour alimenter les rayons de la fripisserie, ou soit pour alimenter les maraudes qu'on faisait en ville. Voilà. J'essaie d'être exhaustif et de ne pas prendre trop de temps.
C'est super. Du coup, on remercie aussi Slowpress qui est passé dans le chat, qui a vécu à Angers et qui a... prend plaisir à voir l'état des luttes à Angers. Il nous reste un peu moins de 3 minutes pour cette partie, on va dire, locale. Moi, je voulais quand même évoquer avec toi, et c'était aussi l'occasion de t'accueillir sur Radio Pirate, votre situation actuelle qui n'est pas des plus simples. Vous avez une décision de justice à la mi-octobre qui a validé l'exclusion du lieu actuel de la Grande Ourse. C'est aussi l'occasion pour toi de peut-être passer un appel, peut-être à soutien, voir un petit peu comment tu peux nous dire déjà un petit peu où vous en êtes, comment vous gérez cette situation-là en plein confinement, et si vous avez des besoins particuliers auxquels les gens dans la région d'Angers et autour peuvent répondre.
Alors, on a eu une décision de justice particulièrement brutale, comme on en voit assez rarement, même dans les milieux squats à l'échelle nationale, à savoir que ça fait un an qu'on y était, et du coup pourquoi? Parce qu'on a négocié, parce qu'il y a eu le confinement, etc. Donc on a eu une décision de justice qu'au bout de quasiment un an d'occupation, et ils ont un peu voulu sanctionner ça. En gros, ils ont qualifié la voie de fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra en reparler par ailleurs, mais en gros ils ont qualifié la voie de fait, ce qui leur a donné le levier juridique pour nous supprimer toute forme de délai, à savoir le délai de 2 mois légal, mais également les délais qu'on avait demandé en fonction des situations des personnes, en fonction de la situation du Covid, et même la trêve hivernale. Ils nous ont tout supprimé, c'est assez rare. Là-dessus, on a mis en place quand même une réponse associative avec des gros poids lourds de l'associatif, que ce soit le Secours catholique, Emmaüs, Médecins du Monde, la Ligue des droits de l'homme, etc. Il y a plein d'associations qui ont fait une lettre ouverte pour demander un moratoire sur l'expulsion à la préfecture. Et il y a également eu le 31 octobre une manif qui est organisée, mais c'était déjà le début de confinement, qu'on a pu... Et j'ai vraiment envie de transmettre cette idée-là. On peut continuer à s'activer, on peut continuer à lutter, on peut faire des actions même pendant le confinement. Il suffit juste de réfléchir à comment on les fait. Là, on a réussi à réunir 200 personnes qui sont venues faire des donations à la Grande Ourse. Et du coup, ça nous a permis quand même de mobiliser les gens, de rappeler qu'on était expulsables immédiatement. Pour le moment, là où on en est, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus se confiner avec nous, des soutiens qui sont venus d'un peu partout en France. Pour nous défendre, en fait, concrètement. On va essayer d'obtenir un positionnement clair de la préfecture qui suive, en fait, les préconisations des gros poids lourds de l'associatif, à savoir pas d'expulsion pendant au moins la crise sanitaire et même pendant la trêve hivernale. On va essayer de relancer la préfecture pour qu'elle s'exprime clairement là-dessus. Et en attendant, nous, on se défend. On a une première manif qui a été décalé, qui sera remis directement le premier samedi à la sortie du confinement. Actuellement, ça sera du coup le samedi 5 décembre, mais ça peut être soumis à changement. Et sinon, on invite tout le monde à partager nos publications, à être là, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur bassechaîne.info, qui est le site local de lutte, de partage d'infos des luttes, et qui est un site collaboratif, donc basse-6chaîne.info, à suivre ce site, à suivre notre page Facebook, et à être présents nombreuses et nombreux lors de la manif post-confinement le premier samedi, et également à venir nous apporter des dons pour alimenter tout ce qui est maraude et fripisserie. Il y a une liste qui est épinglée en haut de notre page Facebook, je crois aussi qu'elle est présente sur Basse Chaîne. Voilà, donc ça c'est des... Et si vous souhaitez aussi nous aider en termes de venir défendre... donc à dormir dans le sleeping ou venir faire du bénévolat avec nous pour les maraudes ou la frépisserie, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur assemblée, donc 2SEE sans accent, point logement@protonmail.com. Voilà, pour nous envoyer vos souhaits de sleeping pour venir défendre le lieu, ou bien vos souhaits de bénévolat pour nous aider sur les maraudes et la gestion de la friperie, quoi.
Ok, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Anatole pour toutes ces réponses et l'initiative locale qui est la Grande Ourse à Angers. Vous trouverez sur notre fil Twitter, notamment à la fin de l'émission, l'ensemble des liens qui vous ont été transmis par Anatole. Merci beaucoup Anatole.
Merci à vous les pirates. Bonne soirée, à plus.
Bonne soirée Anatole, merci à toi, merci à Adrien. On passe maintenant, après ce petit tour local vers Angers, à une initiative un petit peu plus nationale, avec du coup notre invitée Chloé qui va être interviewée par Agathe. Donc je te laisse la parole pour interview.
Oui, merci. Alors ça va résonner un petit peu avec ce dont parlait Anatole, et l'autogestion et les initiatives qu'on peut créer. Parce que ce soir, donc, on reçoit Chloé qui est activiste et qui a créé un outil fabuleux, un fichier Excel, pour essayer de recenser toutes les actions de solidarité mises en place pendant ce confinement. Alors bonsoir Chloé, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton projet plus précisément et nous dire comment tu as eu l'idée de ça ?
Salut Agathe. Alors, l'idée initiale, elle m'a été donnée par Irène de la Nébuleuse Blog, qui est aussi militante à l'Union communiste libertaire, qui m'a dit un soir, oui, est-ce qu'il existe une liste de cagnottes qui puissent aider les populations qui sont les plus précarisées pendant le confinement ? Et du coup, j'ai juste cherché, j'en ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit, bah, autant la faire directement. et donc, du coup, à la base, c'était vraiment l'idée de faire un recensement de cagnottes seules, et au fur et à mesure des ajouts qui ont été faits, c'est devenu une vraie initiative de solidarité à d'autres échelles, donc par exemple en termes de bénévolat, j'ai mon chat qui n'arrête pas de voler, désolé, et du coup il y a une initiative qui pouvait permettre à tout le monde de s'engager un petit peu, donc en termes de maraudes, de dons de nourriture,
de petits conseils pour pouvoir apporter son aide là où on le peut. Comment on peut participer du coup ? Comment on peut aider pour l'élaboration de ce projet, de ce fichier ?
Alors, c'est hyper simple. Il y a en fait un fichier, un Google Doc qui existe. Donc, soit on fait des modifications dans le doc directement, ou alors on m'envoie un message et moi, je fais les ajouts manuellement, en sachant là que le projet est un peu en train d'évoluer, et c'est vraiment formidable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent, puisque là, il y a un site qui va être lancé sur cette base et qui va permettre d'automatiser, de synchroniser tous les ajouts qui sont faits au document pour avoir une plateforme qui soit un petit peu plus lisible, parce que c'est vrai qu'un tableur Excel, c'est pas forcément le plus attrayant. Donc voilà, c'est un petit peu en constante évolution, et ce qui est assez beau à voir, c'est surtout que ça part d'une idée comme ça, parce qu'il y avait un manque et qu'on voulait essayer de créer quelque chose, à une démarche qui soit vraiment collective. Il y a énormément de personnes qui participent à l'élaboration de cette liste.
Oui, parce qu'au final, le confinement, il a démarré depuis un peu moins d'une semaine, et j'ai l'impression que ça prend déjà des grosses proportions. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous en êtes dans le projet ? Combien il y a d'entrées, par exemple, dans ce tableau Excel ? Je ne sais pas si tu as une idée.
Alors, il y en a une petite centaine pour l'instant, et ça a été lancé il y a 2-3 jours, donc c'est vraiment pas mal. Et les thématiques sont très, très diverses. Donc, ça va être autant des cagnottes ou des initiatives pour aider le personnel hospitalier, que les travailleurs et travailleuses du sexe, que les personnes LGBTQIA+, que les artistes aussi, les artistes et les créatrices, parce qu'elles aussi sont très impactées par la pandémie. Enfin voilà, le but, c'est d'essayer d'être, alors pas exhaustif, parce que ça va être compliqué de l'être vu que le périmètre est national, mais en tout cas d'avoir une démarche qui puisse aider l'ensemble des groupes et des populations qui sont précarisées par cette pandémie.
Est-ce qu'il y a, par exemple, une initiative que tu aimerais mettre en lumière, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a surpris ? Est-ce que tu voudrais nous donner un exemple, si tu en as un en tête ?
J'ai pas forcément envie de mettre spécifiquement une cagnotte ou une initiative en avant, parce qu'elles méritent toutes d'être investies de la même manière. Après, oui, il y a une très très belle émulation, je trouve, autour des propositions qui sont faites pour aider les populations migrantes ou exilées ou sans papier. Donc, c'est vraiment la majeure partie du fichier, en tout cas là, à l'heure à laquelle je parle, où on a recensé une trentaine ou une quarantaine de groupes qui faisaient des maraudes, qui cherchaient des bénévoles pour faire de l'assistance juridique, des traductions, etc. Donc, il y a un vrai vivier, enfin, c'est hyper hyper riche à ce niveau-là. Et, donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, mais après, toutes les initiatives se valent.
Et pour conclure, peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver ce fameux Excel, où est-ce qu'on peut apporter ces initiatives ou mettre en lumière d'autres initiatives de l'entraide?
Alors oui, bon, du coup, on a un petit peu bidouillé parce qu'on n'avait pas prévu que ça prenne autant et si vite. Du coup, l'idée, c'est que j'ai fait un post sur ce sujet qui récapitule tout le projet de ce document-là. Donc, c'est sur mon compte Instagram qui est donc chloé.madesta. Et ensuite, dans ce post-là, il y aura un lien où je l'ai mis en story à la une, je ne sais plus ce que j'avais fait, qui renverra directement sur le document Excel, en sachant que là, du coup, dans les prochains jours, enfin probablement demain ou après-demain, on va du coup publier le site. Là, ce sera plus lisible. Et surtout, une chose que je veux rajouter aussi, mais je ne suis pas toute seule à faire ce projet-là, je suis surtout accompagnée de Max, de Queer Green, qui m'aide vraiment beaucoup sur la compilation. Et évidemment, il y a plein d'autres personnes qui nous aident. Je pense aussi à Fanny, donc, qui est en train de monter le site et qui s'est proposée aussi de façon complètement spontanée. Et également Raquel, qui a pu me permettre de collecter pas mal d'informations sur les populations migrantes et exilées principalement. Donc voilà. Après, c'est un travail très, très collectif. Mais là, je cite que trois personnes, mais elles ont vraiment beaucoup aidé sur ce projet. Donc ça me semble important.
Eh ben, merci beaucoup pour cette précision, c'est important. Et merci pour votre initiative, c'est vraiment chouette.
Bah, merci Agathe.
Je te repasse la main, Marlène.
Merci Agathe, merci Chloé pour cet entretien hyper intéressant. Du coup, cette émission un petit peu sur la solidarité touche à sa fin. Ça ne veut pas dire que les solidarités, elles, touchent à leur fin. Au contraire, elles ne font que commencer, j'ai envie de dire, voilà, pour conclure un peu sur des mots un peu frappants. Longue vie au système D, longue vie à l'autogestion, à la solidarité, pour reprendre un peu les mots d'Anatole, longue vie aux luttes, en fait, tout simplement, qui sont derrière ces solidarités-là, aider, sauver, soutenir, encore une fois, ne sont pas des délits, ne seront jamais des délits dans le cœur de celles et ceux qui agissent pour cette solidarité. Bravo à toutes et à tous celles et ceux qui essaient de faire bouger les choses. Soutien à tout le monde, à tous ces gens qui aimeraient mais qui ne peuvent pas. On pense à vous aussi. Un grand merci à Dinosaur pour la technique, un grand merci aux invités, un grand merci à Adrien, à Ayat, du coup, pour vos superbes entretiens. C'était vraiment hyper intéressant. On conclut avec une capsule sur la santé mentale, avec quelques petits rappels, parce que là, on vous laisse ce soir. C'est important de ne pas vous laisser seul, de ne pas vous laisser avec rien, de vous dire qu'on continue quand même à penser à vous et qu'il y a toujours des numéros, des contacts que vous pouvez joindre. Si vraiment vous vous sentez trop seul dans ce genre de période, c'est hyper important. Du coup, après cette capsule, il y aura une musique qui bouge un petit peu, histoire de se redonner un peu du peps, se redonner un peu de la force. Et eh bien, on se retrouvera très bientôt. Demain, il y a encore des émissions. Je vous invite à aller checker le Twitter de Radio Pirate. Salut Moussaillon, Moussaillon, tenez bon la barre, tenez bon le vent, ICO, tout ça, la capsule et la musique. Bonne soirée.
Coincé entre un climat social anxiogène et les contraintes imposées par la crise sanitaire, la santé mentale en prend un coup. Dans ces moments particulièrement difficiles, il est important de ne pas rester seul, avec ses angoisses, ses doutes et des idées noires. Si vous vous sentez isolé et coupé de tout, des lignes d'écoute anonymes et gratuites proposent un accueil téléphonique 24h sur 24. En France, vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. En Belgique, Téléaccueil est joignable au 107. Et en Suisse, pour la main tendue, appelez le 143. Ces lignes d'écoute proposent également une messagerie, ainsi que des permanences de messagerie instantanée via leur site internet. Pour la France, cherchez SOS Amitié. En Belgique, Téléaccueil. Et en Suisse, la main tendue.
Je suis mort hier, enfin je crois. Du coup je bouge mes trous de mémoire. Du bout de mes doigts, ne me touchez pas. Vous m'avez dégoûté, l'étranger est étouffé. J'écris les cris que je n'ose pas pousser. Comment ne pas bouger face à l'oppression. Mes textes, une eau précieuse ou juste une impression. Tant de questions, sentez-vous l'entrave. Entre un cœur anarchiste et une morale esclave. Morale état. Ok, mais les autres, j'ai beau prendre les fautes. Mais l'enfer, c'est les nôtres. J'aimerais soigner mes maux de tête sans m'éloigner de votre aide. Embrasser Antigone, mais sans croire que je la possède. Je fais mon possible pour me libérer de vos codes. Mais je ne trouve pas d'antidote, même viré aux antipodes. Misanthrope, ne me comptez pas ramener vos fidèles puisque je n'y vous règle les plus essentiels. Je suis l'étranger, source de danger. Coupable de penser, tant que mes ancêtres qui ne demandent qu'à danser. Je suis l'étranger, source de danger. Coupable de penser. Je narre ma noyade quand mes pensées sont déluviennes. Misérables, nous le sommes, la beauté qui nous mène. La bonté divine inexistante. Comment faire pour éviter une existence en enfer? Depuis le temps qu'on enferme nos idéaux, il est temps de faire fuir ce mode de vie idiot, illico. Briser le rocher de Sisyphe. Accepter que notre rôle est décisif. Décider, je ne vis plus de comédie. Ça m'a lassé le lasso, je le trouve du moins quand j'écris. Et j'entends des cris critiques dépourvus de contenu. Messieurs, dans ma vie, votre présence est un concours. Ça m'a tendu de voir, une étendue de voix. Écraser la vie est pourtant plus entendu que moi. Si mes pamphlets se voient comme un crime à l'unanimité, sachez que je suis fier de mes cris contre l'humanité. Je suis l'étranger, source de danger. Coupable de penser dans une société qui ne demande qu'à danser. Je suis l'étranger, source de danger. Coupable de penser dans une société qui ne demande qu'à danser.
Que de puissance au monde de sabre et de...